compte pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Et si en passant par une autre, elle s'était racontée elle, une autobiographie déguisée en biopic, lui-même fictionné, et s'il suffisait, comme chante Céline, de changer les prénoms? Le résultat était blouissant, la performance ahurissante. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un film de princesse sans princesse, mais avec de belles robes, des paillettes, un film sur une athlète royale. Bonjour Valérie Lemercier.
Bonjour.
Aline, votre hommage à Céline Dion entre vérité et fiction, sur scène, une artiste démesurée en coulisses, une femme courageuse, amoureuse, positive, bref, un destin hors du commun que vous incarnez de 5 à 55 ans. Cette voix unique est interprétée dans le film par une chanteuse française. Bonjour Victoria Sio.
Bonjour.
Prêter votre voix, sa voix, et ne faire qu'une avec celle de Céline Dion, le résultat est impressionnant. Et pour évoquer ce biopic, qui n'en est pas un et d'autres qui n'en sont pas non plus, un journaliste musical, notamment chez Rock et Folk. Bonjour Olivier Cachin.
Bonjour Christine, bonjour Laurent. Bonjour.
Aline, le film sort mercredi prochain, tandis que cette semaine, nous découvrons Albatros, Burning Casablanca ou Compartiment numéro 6. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Maman. Oui, mon amour.
Tu sais ce que je voudrais le plus?
Non.
C'est de devenir une grande chanteuse.
Je sais, mon cœur. Mais maman a un grand projet dans la tête.
Et c'est quoi?
C'est toi.
Écoute-moi, Jean-Bobin. On va pas en faire une bête de foire qui chante le top 50 comme un perroquet. Faut lui faire une chanson à elle. Pour elle. Ben, on n'est pas plus bête que les autres. On va la faire nous-mêmes. Mais moi et toi, tu vas faire la musique. Tu demandes un petit coup de main à Jean Collin ou à Jean Claudin ou même à Jean Sylvain. Et on va y arriver. Et là, seulement à ce moment-là, tu l'enverras au gars qui te dit. Mais pas avant.
J'ai toujours rêvé de jouer un personnage qui bouge, qui danse et qui chante. Dites-vous dans ce doc, le premier qui vous est consacré, Valérie Lemercier, singulière. Tout comme la jeune Céline, la dernière d'une famille de 14 enfants, c'est Aline. Vous, votre humour, elle, sa voix, les deux repérés très tôt, alors autant commencer par là. Le prétexte, c'est Céline, le film, c'est Aline, et derrière, il y a Valérie.
Un petit peu, j'ai essayé.
Vous avez l'accent que vous dites.
Non, mais si on ne met pas un peu de soi dans un film... c'est dommage. Évidemment qu'il y a plein de choses qui m'ont parlé dans son parcours, plein de choses dans sa façon d'être tout le temps, d'être tout le temps dans la fantaisie. Mmh. Elle fait le show tout le temps. Peut-être qu'elle se sent pas obligée, mais enfin, il y a quelque chose chez elle où tout le temps, ou même quand on sent qu'il y a un petit problème, elle se met à chanter comme ça. Enfin, elle est en mouvement, ça c'est sûr. Et c'est ce qui est intéressant dans ce couple, c'est qu'il y en a un qui est très lent, des 5 minutes tranquille, et puis une qui est une pile à côté. Ils ont dans ce couple, ils sont à deux rythmes complètement différents. Donc voilà. Et évidemment que je crois que c'est le rêve de toutes les actrices. Moi, je pense de chanter, enfin d'être une chanteuse, de jouer une chanteuse.
Mais en commun avec elle aussi, il y a la volonté, il y a l'énergie aussi.
Oui, il y a probablement des forces vives qu'elle a.
Comme vous.
Oui, j'ai des forces vives, je crois un peu. Alors peut-être. Non, c'était un rôle très agréable à jouer. J'ai beaucoup joué des victimes, des filles qui tombent, qui se prennent des coups, et j'ai adoré jouer une battante. Qu'elle est. Elle a de la chance. Elle est battante. C'est pas du tout. On a pu penser qu'elle était manipulée. Pas du tout. Elle est totalement. Je veux dire, nous, quand on est petit et qu'on s'inscrit pour être délégué de classe, on nous dit qu'il faut pas voter pour nous. Alors elle, à 12 ans, elle dit « je veux être une star internationale » et elle le devient. Et elle a beaucoup d'ambition, elle-même aussi.
Mais à 12 ans, vous vous disiez quoi ?
Moi, je voulais mourir.
Non.
Tout le temps. Non, mais je...
Vous connaissiez votre potentiel, déjà.
Je voulais être libre. Je voulais être libre, en fait. Je voulais avoir ma chambre. Je sais pas comment dire. Je voulais avoir... J'avais un grand placard dans ma chambre où je passais mon temps. Mais j'ai toujours voulu avoir un petit endroit à moi. Voilà.
Il y a une grande différence quand même entre vous deux. Céline a un mentor.
Ouais.
Vous n'en avez pas.
Bah non, mais j'aurais aimé. Je pense que beaucoup d'artistes n'auraient pas péri avec un René à leur côté. C'est quand même un métier déstabilisant, avec des hauts et des bas, avec des voilà. Et il y en a plein avec des histoires d'amour très malheureuses et ou des substances très malheureuses qui sont tombées et qui ne sont jamais revenues. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une grande force d'avoir... cet amour-là a été... Ils se sont sauvés l'un l'autre, mais c'est une grande... une source d'équilibre.
Sincèrement, ça vous a manqué, vous, quelqu'un qui vous accompagne, en dehors de l'histoire d'amour, hein, quelqu'un qui vous coach?
Non, pas tellement... C'est pas quelqu'un qui me coach, parce que d'ailleurs, il la coach pas tant que ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit c'est bien d'être avec quelqu'un qui fait pas le même métier que vous, mais quand même, de quoi on parle après, ce que je veux dire, c'est que de travailler avec quelqu'un, c'est bien aussi, et puis c'est d'être soutenu. Il y a des hommes qui prennent ombrage d'être avec quelqu'un de public, pour qui c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que là, non seulement c'était pas compliqué, mais il avait qu'une envie, c'est qu'elle soit très célèbre.
Oui.
Donc,
il y avait deux envies.
Et puis surtout, il la regarde et il est amoureux de la femme, mais il la regarde chanter tout le temps. Et même moi, ce qui m'a bouleversée, c'est qu'à la fin de sa vie, quand il pouvait plus se déplacer, il est dans son lit. Et il a fait un système
d'oreillettes,
de duplex,
ouais.
Et il l'écoute et il lui parle. Quand elle chante, elle était au Stade de France à des milliers de kilomètres de lui, et elle lui parle, il lui parle dans l'oreillette. Il y a une oreillette pour lui, et ils se parlent et ils se font des signes pendant qu'elle est sur scène à des kilomètres de lui. Donc c'est très beau, il la regarde tout le temps.
On va écouter cette première audition. Elle a 12 ans, poussée par sa famille. Elle se retrouve dans son bureau alors qu'il vient à peine d'écouter la cassette.
C'est vraiment toi qui chantes là-dessus?
Oui. Ouais.
C'est à toi que je parle, Céline.
Aline.
C'est bien toi qui as recordé ça, Aline.
Ben oui, c'est moi.
Tu sais que cette voix-là que j'ai entendue... J'arrive pas à croire que c'est la tienne, qu'elle sort de toi. Penses-tu que tu pourrais chanter pour moi?
J'ai plus l'habitude avec un micro puis du monde autour.
Mais tu vas fermer les yeux, puis tu vas t'imaginer devant une grande salle, avec des grands balcons remplis de monde qui t'écoute. Puis moi aussi, je t'écoute, Aline, à 1000%.
Valérie Leversti, vous avez souvent joué des petites filles à différents âges de la vie. Là, vous la jouez à 12 ans, oui. Avec un effet spécial.
Ah bah oui. Alors, je tiens quand même à dire à vos auditeurs que ça n'est pas mon vieux visage sur un jeune corps. C'est moi en entier. C'est moi en entier. Alors, il y a deux techniques diamétralement opposées. Il y a à la Méliès, dans certaines scènes, j'ai un très grand bureau et je suis donc j'ai l'air petite. Et il y a d'autres scènes où là, c'est des effets spéciaux. Il y a eu 15 personnes pendant 6 mois qui ont travaillé à ça. Je joue en regardant mes partenaires beaucoup plus haut que leurs yeux et eux me regardent plus bas. Et ensuite, on me rapetisse entièrement, mais tout mon corps. On efface les marques du temps, bien sûr. Et on me replace dans l'image avec les adultes. Et certaines images sont fabriquées avec 3 ou 4 images. Voilà. Donc ça, c'est des effets spéciaux. Et plus les salles dans lesquelles Aline chante sont grandes, moins il y a de monde. Parce que dans les petits théâtres, on avait des figurants, bien sûr. Mais quand on arrive dans les stades, j'étais devant personne.
Non, seule.
Seule, totalement seule.
Oh, super difficile à jouer.
Alors, il y avait Brigitte Buc qui était venue ce jour-là, ma co-scénariste. Et donc, j'ai un peu chanté pour elle. Mais il y avait absolument personne. Voilà, et ça aussi, c'est des effets spéciaux, bien sûr.
On revient quand même à René, le René de la vie, mais quand même, c'est une histoire d'amour assez folle, cette histoire.
Oui,
à 12 ans, Et elle tombe amoureuse très vite de lui.
C'est pas dingue. Forcément le premier jour, non. Mais en tout cas, elle. Et lui ne veut pas.
Ouais.
Et lui freine des cas de fer. Et puis à un moment donné, ça devient évident. Elle a 20 ans, voilà, ils sont à l'Eurovision, maman est pas là, pour une fois. Et voilà, donc, ce qui est cornélien, ce que j'ignorais d'ailleurs, c'est horrible pour elle, c'est quand même, il y a une grande histoire avec sa mère aussi, et que sa mère, évidemment, n'est pas OK avec ça, c'est très compliqué, c'est des moments de sa vie très compliqués où sa mère veut pas, et où elle est très très fâchée, et voilà, et c'est dur, quoi. Ouais. C'est très dur.
Cette Aline a une voix qui n'est pas la vôtre.
Non.
Alors, vous avez fait appel à une chanteuse, Victoria Sio.
Ouais, surtout qu'on l'a trouvée. C'est
oui.
Ça. On n'a pas seulement fait appel. Il y a 50 chanteuses.
Non.
Qui ont postulé.
On a fait un casting de chanteuses.
On a fait un casting de chanteuses à l'aveugle, on va dire. Il en est resté 4. Victoria était le numéro B. Et c'était la bonne. Voilà. Ouais. Et non seulement c'est une très grande voix, Victoria, mais c'est aussi une grande actrice. C'est-à-dire qu'elle a tout chanté dans l'émotion des scènes. Et il fallait... Alors, pas du tout faire de pastiche, pas d'imitation.
Non.
Et il fallait qu'elle y mette elle. C'est-à-dire, si elle n'est pas dans les chansons, on n'y est pas non plus. Ça ne marche pas. Donc, il fallait vraiment qu'elle y soit. Mais, enfin, voilà, qu'il fallait qu'elle mette sa vie.
J'étais bien coachée, surtout. J'étais bien coachée par Valérie. Moi, j'étais derrière ma vitre avec mon micro et mon casque. J'avais un grand écran. J'avais toutes les scènes de Valérie, mais sans son. Donc il fallait que je colle mes respirations à ses respirations, il fallait que je colle mon énergie à la sienne et vice versa. Donc, et ce que voulait Valérie, c'était ce petit supplément de jeu supplémentaire en plus des références de chansons qu'on connaît de Céline Dion. Il fallait qu'on apporte ce petit supplément d'âme. Il y a des chansons où, notamment au tout début, elle chante cette chanson pour sa maman.
Oui.
Elle a une fêlure dans la voix. On voit d'ailleurs que l'actrice Aline pleure. Il fallait que je le joue aussi, quoi. Donc là, elle m'a dirigée comme une actrice, en fait.
Et surtout, parce que c'est ça qui est très frappant chez Céline, c'est que tout est à l'air facile. Mmh. Et ce qui était, je voulais pas qu'on sente l'effort, et c'est quand même vrai que ça a été long pour certaines chansons, c'était parce que la barre est très très haute, mais on a l'impression, c'est ça que j'adore dans certaines chansons comme Treat Her Like a Lady, où elle s'amuse, Victoria, elle chante ça comme ça, les doigts dans le nez, enfin, j'adore la facilité, moi je trouve que ça, enfin voilà, c'est comme regarder un sportif, c'est comme, enfin voilà, il y a quelque chose de, il y a une performance, et c'est ce qui me frappe chez Céline, c'est que tout, ça a l'air très simple pour elle de chanter, et je voulais qu'il y ait ça, qu'on ait l'impression que voilà, et évidemment que Victoria a des grandes facilités.
Et Victoria, à 10h25 et 45 secondes, vous pourriez chanter.
Si vous voulez, avec plaisir.
Qu'est-ce que vous avez choisi? Je vais faire comme un présentateur. Vous avez choisi quoi comme titre, Victoria?
Qu'est-ce que tu vas chanter, mon
Qu'est-ce
bébé?
Qu'est-ce que tu vas chanter, mon
c'est
bébé?
Martin.
Eh bien, je propose un petit Pour que tu m'aimes encore.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Ok. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai tes langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore.
Bravo.
Bravo.
Merci.
On va refaire le mixage.
Un journaliste du Times a dit « Elle glisse sans effort de profonds murmures à des aigus parfaitement justes. Hein, » la voix de Céline Dion. Comment on l'analyse?
Ah oui, oui.
Des aigus comme des cloches de verre.
Mais c'est une technicienne, Céline, en fait. Quand on, il y a l'écouter avec ses potes, quand on est en voiture, quand on entend une chanson de Céline à la radio, on met le son, on s'enjaille un petit peu dessus, puis il y a le travailler. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, chaque chanson a sa difficulté. On se dit, c'est peut-être All By Myself la plus difficile, mais en fait, non. Toutes sont difficiles, parce qu'on se rend compte qu'au-delà de la chanteuse qu'elle est, c'est pour arriver à ce qu'elle fait là maintenant. Et quand on connaît son parcours musical, on voit l'évolution même dans sa voix. On le voit aussi d'ailleurs dans le film, où au début, elle fait un peu du mimétisme avec les chanteuses qu'elle a beaucoup écoutées, Mireille Mathieu, Piaf, tout ça. Donc elle roule un peu les R, elle est un peu nasale, elle est maladroite dans sa façon d'appréhender les notes. Et puis plus le film continue, et on le voit aussi dans sa carrière, plus elle devient beaucoup plus performante dans son anglais, dans sa façon de poser les notes. Et elle a une façon, elle est technicienne, quoi. C'est une vraie musicienne au-delà d'être une chanteuse. Elle sait exactement où elle va et comment elle le fait.
Justement, en anglais, on va écouter Ziggy.
Ziggy, I call him Ziggy, I'm so hard for him. He's not at all like all the rest, but he's held out and he's the best. Even if I know he will never go with me. Ziggy, they call him Ziggy.
Pardon de vous interrompre, Victoria, dans cette belle chanson. Valérie Lemercier, c'est un projet colossal quand même. C'est le projet de votre vie, ce film.
C'est maintenant que je me le dis, mais tout s'est fait avec une grande joie. Ça a commencé par la préparation. On avait la chance d'être tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit où on fabriquait les costumes, un autre où on faisait les perruques, et on en a tous. Tout est faux, tous nos cheveux sont faux.
Des faux nés pour les frères.
Des faux nés. C'est-à-dire que le frère principal, qui est Antoine Vézina, Jean Bobin, qui s'appelle Jean Bobin, il avait un petit nez, et je me suis dit, on se ressemble pas du tout, c'est quand même dommage. Donc j'ai copié mon grand nez, on lui a fait le même à Montréal, et quand j'ai reçu la photo, je trouvais ça tellement bien, qu'après je négociais avec la production, je dis, je veux bien couper cette scène, mais je veux donner de plus. Donc j'ai réussi à avoir 6 nez dans le film. Il y a 4 frères et sœurs qui ont le mien. Les pauvres qui avaient des petits nez, ils avaient 2 heures de maquillage en plus par jour. Et les parents, quand c'est pas les mêmes acteurs, les parents jeunes, quand ils se rencontrent, quand ils ont 18 ans, 20 ans, ont le nez de leurs aînés. Voilà. Et c'est un petit truc, mais ça marche très très bien. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une fratrie? C'est quand même des gens qui se ressemblent. Moi, nous, on est 4 filles, on se ressemble. Ouais. Et là, ils ont un peu, ils ont tous, ils sont 14 et ils ont, on se ressemble. Non, mais c'est vrai. Quand on nous voit ensemble, il y a un air de famille. Et Jean Bobin, je vous assure, il faisait du FaceTime avec sa fille de 12 ans. Elle ne le reconnaissait pas. Non seulement je lui ai mis mon nez, mais je lui ai mis des cheveux, une moustache, et je lui ai demandé de maigrir. Donc c'est plus du tout la même personne.
Cette femme a eu un rythme, Céline Dion a un rythme effréné, notamment à Las Vegas, ses tournées, etc. On a choisi cette scène en voiture sur son emploi du temps, qui est complètement dingue.
C'est des chanteuses, il y en a plein dans le monde. Mais mon fils, une maman, il n'y en a rien qu'une.
On a tout fait, justement, pour que tu puisses combiner les deux, Aline. 50-50. Écoute-moi. 6 p.m., make-up, soundcheck. 7 p.m., tu reçois tes invités avant le show.
Et je vais leur dire quoi? Ils auront rien vu.
Tu vas trouver, je te fais confiance. 8:15, tu montes sur stage. 10:20, là, t'as fait ton show, tu sors de scène. 10:23, t'es dans la voiture tranquille. 10:55, t'es rendu à la maison avec Junior. Là, t'es 5 années comme ça, tranquille.
Non mais là on rigole, mais elle a eu un rythme de dingue.
Il y a des scènes comme ça dans sa vie où il est là ça va, t'en as 3. Là c'est rien, c'est un mini concert d'une heure. Il lui dit d'un moment, c'est vrai, après t'en as 3 de suite qui s'enchaînent et c'est pas 2, non c'est 3. Puis après la signature de disque à Ottawa, là t'as une journée tranquille. Et ma vie en ce moment, c'est un peu ça. Mon attaché de presse qui me dit, là, on est dans l'ascenseur, t'es 20 secondes tranquille.
Mais non.
Là, c'est bon. C'est un peu ça. C'est tellement drôle. Non, mais moi, je voulais, au début, pendant qu'on tournait le film, je voulais faire une bande-annonce que j'ai jamais faite. Je voulais dire, Aline, oui, elle se retourne. Quand est-ce que tu travailles? Ben, le lundi, le mardi. le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, puis le dimanche. C'est quand même, c'est une folie. Elle, c'est Michel Drucker qui me racontait ça, mais des fois elle arrivait, sortait de l'avion, je sais pas, à 5h du matin, et hop, elle était déjà en piste pour, il y avait des nuits sans dormir, quoi. C'était, et parce que comme ils ont fait ça dans plein de pays, et que c'était quand même toujours elle, et qu'elle chantait, et qu'elle, je veux dire, on comprend que, à un moment, le, voilà. Et, sauf que elle, je crois quand même qu'on lui donnait à manger, ce qui n'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire, hier, j'ai travaillé de 8h à minuit, personne n'a pensé.
Elle balance.
J'ai pas d'animaux, mais moi, quand j'en ai jamais eu, quand on est avec des animaux, de temps en temps, il y a du frolic qui arrive. Mais même nous, rien. Rien du tout. Moi, je suis venue avec deux clémentines ici.
Avec tes gouttes de bolchoï, t'as pas dit.
Je suis venue avec mes gouttes du bolchoï pour la voix. C'est mon seul aliment. Mon petit déjeuner, c'est les gouttes du bolchoï pour la voix. Voilà.
On a entendu une voix, mais celle qui danse, c'est vous. Vous avez dû prendre des sacrés cours ou pas pour...
J'ai fait du sport pour mincir, en fait. Et pour avoir la forme, pour pouvoir non seulement jouer, mais embarquer avec moi toute mon équipe.
Tes équipes.
Mes équipes, comme on dit maintenant. J'adore quand je dis mes équipes. Les gens disent mes équipes à partir de deux personnes. C'est mes équipes. Mais, oui, j'ai fait.
Non,
mais c'est pas tellement de la danse, j'ai fait plutôt de la boxe, du sport, du cardio. Oui. Parce que, en fait, je suis pas une battante. Moi, quand j'ai un problème, je m'en vais. Donc, il fallait jouer une battante. Donc, la boxe, ça m'a bien aidée. Mais la danse, il y a quand elle chante River Deep, elle danse avec des danseurs. Et là, il y a un chorégraphe, Eric Martin, qui nous a fait travailler avec. Sinon, je dirais quand même que c'est simplement la de bien regarder, de la tellement regarder qu'après les choses sortent. Ce que je veux dire, c'est que je me suis pas entraînée à la jouer, enfin à la danser. On va dire. Mais elle a des gestes, elle a des mouvements très particuliers de mains, de jambes. Et ça, c'est pas, quand on est acteur, c'est le béaba, c'est pas très compliqué de le faire. Voilà.
Il y a aussi en commun entre vous et elle la solitude de l'artiste. Oh, non,
en commun avec tous les artistes.
Ouais, bien sûr. Mais vous êtes seule sur scène dans
Je suis seule sur scène. C'est sûr que s'il y a un problème, personne peut me jouer de la musique ou me souffler.
Oui.
C'est vrai. Mais toutes les loges sont moches. Qu'on joue. Non, mais c'est vrai qu'on joue au Stade de France ou au Châtelet, c'est moche. C'est quand même deux murs avec un lavabo et un tapis un peu sale. C'est quand même. Donc, et puis c'est après la chaleur du public, c'est on se retrouve devant sa soupe. Qu'on joue devant 100 ou 80 000 personnes, c'est pareil pour tout le monde. On a un petit coup de blues en sortant. C'est pas toujours désagréable d'ailleurs, mais on est quand même, on est seul et ça, et on prend ses repas devant son miroir et on sait. Et finalement, les gens qui vous maquillent, qui vous coiffent, ce sont les gens avec qui on parle le plus. C'est vos partenaires de vie parce que les siens, on les voit pas beaucoup. Quand on est en tournée, moi j'ai fait mon premier spectacle, je l'ai joué 400 fois. Et on perd ses proches quand on part en tournée si longtemps parce que le lien se brise. Alors bon, maintenant il y a des portables et tout ça, mais je me souviens à l'époque, quand on part en tournée, il y a beaucoup de techniciens qui disent une tournée à un mariage, quoi. C'est vrai?
Ah oui.
Bah oui, parce que on part 8 mois, donc le lien est rompu. Enfin, je veux dire, c'est pas si facile, quoi. On est plus avec les équipes qu'avec ses partenaires.
Ouais, et le défi, c'est comment effectivement, c'est comment inventer le plus fidèlement possible, presque à travers ce film Aline, une fiction avec un pas de côté, un biopic qui n'en est pas un. Il y en a d'autres exemples, Olivier Cachin, dans l'histoire du cinéma. Et si on commençait par celui-là, d'ailleurs, 8 Mile de Curtis Hanson.
Oui, alors on est en 2002 et Eminem, Marshall Mathers de son vrai nom, est une superstar depuis quelques années. Il a fait un carton absolu avec The Marshall Mathers LP, Eminem Show. C'est un cas assez atypique dans le hip-hop américain, puisque c'est un blanc dans un milieu qui est principalement noir. Son producteur est Dr. Dre, qui est un membre des Niggers With Attitude, groupe de gangster rap fameux, et il va décider de faire un film qui est un vrai faux biopic, dans le sens où c'est l'histoire d'un rappeur blanc qui s'appelle B-Rabbit. Ça se passe à Détroit, dans les clubs pourris, où il y a des concours de rap où chaque artiste va avoir 30 secondes ou une minute pour exprimer son style face à un autre qui va essayer de le détruire verbalement bien sûr. Et en fait, cette histoire, c'est l'histoire d'Eminem.
Mais
sauf
oui,
que ça n'est pas
qui
Eminem.
Joue, c'est ça
oui,
qui est dingue. Mais c'est il joue son personnage fictionné.
C'est une schizophrénie qu'il avait déjà sur disque. C'est-à-dire que déjà sur disque, Eminem, c'est Marshall Mathers et c'est aussi Slim Shady qui est son double diabolique qui va lui permettre de dire des choses absolument horribles, mais dans un rôle qui est celui d'un personnage. Et dans le film, Be Rabbit, c'est à la fois lui, mais ça n'est pas lui. C'est-à-dire que c'est ça qui est fort. C'est son histoire, c'est-à-dire celle d'un blanc bec qui arrive dans un milieu de noir, qui va donc être évidemment méprisé pour ça, qui va devoir faire ses preuves encore plus. Et qui, d'ailleurs, ça va se terminer par ce concours incroyable où il va lui-même dire face à un rappeur noir qui est son ennemi juré toutes les choses qu'il a à dire sur lui. Oui, je suis une merde qui habite dans une caravane avec sa mère célibataire. J'ai une petite sœur. J'ai mon copain qui s'est fait tabasser par des mecs. Et à la fin, il dit voilà, maintenant, dis-leur tout ce que tu veux sur moi. Mais il a déjà tout dit. Et ce film, ça a été un triomphe, mais non pas parce que c'est le film d'Eminem, parce que c'est le vrai biopic de Be Rabbit.
Et d'ailleurs, c'est lui qui compose tous les morceaux du film.
Dont Lose Yourself, évidemment, qui a eu l'Oscar et qui est un morceau extraordinaire sur justement ce que c'est que devenir une star.
C'est fou ça, Valérie, merci hein, de faire un biopic déguisé et la vraie personne le joue.
Bah oui, c'est très très curieux. Mmh. D'ailleurs, Céline, elle dit, on m'a proposé de jouer mon propre rôle, mais j'avais pas envie, moi, de faire ça.
Ah oui.
Oui, je comprends. Mais je crois que Madonna va le faire. Je crois qu'elle va faire un biopic sur elle en le jouant. J'ai entendu ça, mais je sais pas.
Et vous, un biopic sur Valérie Le Mercier?
Oui.
Un journaliste avait dit que ma vie privée était aussi lisse que le crâne de Yul Brynner, mais c'est beaucoup moins intéressant que la vie de Céline. On va s'ennuyer, je pense.
Autre exemple, Libby Cashin, c'est le espèce de biopic musical de Todd Haynes qui s'appelle Another. Sur Bob Dylan, très audacieux. Il y a six acteurs qui l'incarnent, et notamment
une actrice.
Kate Blanchett. On écoute sa voix. Elle est dingue.
I mean, what do you care if I care or don't care? What's it to you? All right. What if I said I never cared about, you know, folk music, about you know, protest songs? It was all about jumping into a scene. You know, I was never going to stay there. I mean, I just you know, knew I could do it better than anybody else.
Well, I don't believe you. Yeah.
No, so... I mean, you know what matters to me? You know, matters what's happening now.
C'est comme si on avait fait Céline Dion par différents acteurs, actrices. Là, c'est Dylan par six acteurs différents, à six âges et éclairage de la vie.
Oui, et six personnages différents. C'est vraiment, rarement le terme d'OVNI aurait été mieux adapté qu'à ce film de Todd Haynes, puisque quand il sort en 2007, on sait pas trop qu'en penser, parce que déjà, faut dire que justement, on parlait de tournée tout à l'heure, Bob Dylan, c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas vivre, puisque sa tournée, c'est The Never Ending Tour. Il passe sa vie sur scène. Ouais. Il a choisi d'être cette espèce de baladin qui n'a pas de vie. Et finalement, comment raconter la vie de quelqu'un qui s'exprime tellement bien dans ses chansons, le choix de Todd Haynes, ça a été effectivement de prendre Christian Bale, Kate Blanchett, Heath Ledger, il y a même Richard Gere qui vient traîner là, un truc complètement bizarre pour quelqu'un qui a dit je ne peux être que ce que je suis, quelle que soit la personne que je suis, genre de phrase sur laquelle on pourrait disserter pendant des heures. Mais Bob Dylan, du coup, apparaît dans une réalité complètement transformée, et c'est pas lui, mais finalement, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que si on avait fait un biopic classique, comme il y en a plein, dont certains très réussis, hein, Bohemian Rhapsody, le film sur les NTM suprêmes qui va sortir, Straight Outta Compton sur N.W.A. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement inédit. Ça m'a fait penser d'ailleurs, dans une moindre mesure, à Love and Mercy qui était sur Brian Wilson des Beach Boys,
génial,
où là, il y avait deux acteurs qui l'interprétaient. C'était aussi une façon de surfer avec la réalité et de dire c'est pas vrai, mais finalement, peut-être que cette fiction-là est plus réelle que ce qu'aurait été une hagiographie où on aurait pu dire ah oui, mais tel jour, il avait pas tel habit, il a pas chanté ça comme ça. Là, on s'en fout, puisque de toute façon, ce qui reste, c'est l'image d'un artiste incalculable et difficile à capter, qu'est Bob Dylan.
Pareil pour d'ailleurs, pareil par rapport au changement de prénom. Du coup, on peut pas vous accuser, Valérie Mercier, de dire...
Non, il y a pas un frère qui va venir, mon pull était bleu et pas rouge. Mais j'ai même fait des infidélités, c'est-à-dire par exemple, Pour que tu m'aimes encore, que Victoria vient de nous chanter.
Oui.
C'est une chanson qu'elle chante une fois mariée, et dans le film, c'est avant de se marier. Donc, parce que ça me semblait, on pouvait pas passer à côté de cette chanson-là, c'est la grande chanson d'amour. Donc c'est comme ça qu'elle dit son amour avec cette chanson là. Mais donc j'ai il y a plein de mensonges.
De même, moi j'adore cette scène. Pardon, mais à Las Vegas, au petit matin, quand elle croise les sosies d'Elvis Presley. Ça c'est une invention, bien sûr. Elle a jamais traîné toute seule à Las Vegas mais le matin.
Elle dit ça. Elle dit j'ai jamais mis un orteil dehors en 14 ans. Oui. Et ça elle le dit vraiment. Et c'est pour ça que j'ai fait cette scène. C'est que moi, quand je suis dans les villes, je me lève tôt et je vais voir comment c'est au petit matin. Ouais. Je lui fais faire ce qu'elle n'a jamais fait. Et donc, je la fais errer dans les rues de Las Vegas. Et c'est Rufus Wainwright qui chante Going to a Town. Ouais. Et c'était dans le scénario, je veux dire, c'était tout à fait prévu comme ça.
Vous la libérez.
Je lui fais faire un tour dehors, ouais. ce qu'elle ne peut pas faire, ouais. En fait. Moi, je peux aller au cinéma le samedi après-midi, pas elle. Elle est trop connue. Et alors, à Las Vegas, personne ne me connaissait. Je vous rassure, j'en étais tranquille.
Dernier exemple, Yves Cachin, très, très mélancolique film de Gus Van Sant, c'est Last Days, avec Michael Pitt, bien sûr, qui joue Kurt Cobain. Les derniers jours.
Est-ce que c'est Kurt Cobain? Parce que, en fait, Gus Van Sant voulait faire le biopic sur Kurt Cobain, mais il a beaucoup hésité et il a renoncé. Le principal argument qu'il avançait, c'est je ne voulais pas faire de peine à Courtney Love, j'avais peur. Donc il a fait cette espèce de film qui est pas vraiment un film sur Kurt Cobain. Enfin, bien sûr, c'est Kurt Cobain, mais ça n'est pas du tout lui. Il y a Asia Argento qui joue. Alors, elle s'est beaucoup défendue en interview après en disant, mais beaucoup de gens me disent, vous jouez Courtney Love? Non, pas du tout. Je ne suis pas Courtney Love. Oui. Il y a cette espèce de personnage qui est perdu, qui se travestit, qui va finir par se suicider, bien sûr. Bon, là, c'est pas un spoiler, hein, on connaît tous la fin, malheureusement. Mais c'est là aussi, c'est un film assez curieux. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Béatrice Dalle, qui est une fan de Kurt Cobain, et qui dit, j'aime pas ce film pour une raison, c'est que il est bien, mais Michael Pitt est trop poster boy, il est trop mignon, il ne capte pas cette tristesse infinie qu'il y avait dans Kurt Cobain. Mais il incarne quand même une image, en tout cas, de la rockstar perdue, de cette espèce de ce qu'évoquait Valérie tout à l'heure, cette solitude de l'artiste. Alors lui, c'était encore plus loin parce qu'il avait, je pense, beaucoup de personnes dans sa tête et beaucoup de démons. Mais c'est vrai que le film c'est pas le biopic sur Kurt Cobain, mais c'est ce que peut ressentir un artiste de l'importance de Kurt Cobain face à quelque chose qu'il n'a jamais demandé, c'est-à-dire un succès que finalement il ne voulait pas avoir. Parce qu'il faut quand même savoir que Kurt Cobain, ses idoles, c'est des groupes underground de punk américain ou anglais, c'est les Pixies, c'est pas du tout quelqu'un qui a eu, comme Céline Dion, cette volonté quand même d'avoir ce grand public. Lui, il est finalement prisonnier dans quelque chose qu'il n'a pas choisi. Oui. Et c'est ce qu'on voit dans ce film, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre avec ce succès et qui est fini par y mettre fin de la façon la plus radicale possible.
Victoria Assio, vous avez vu ce film de...
Pas du tout. Non, mais je vais... Même celui d'avant, là, je ne l'ai pas vu et ça me dit bien.
Valérie Lemercier, j'ai l'impression que Céline Dion a un peu déteint sur vous, dans la mesure où elle est très... Elle raconte tout de sa vie, elle ne cache pratiquement rien.
Elle dit, je suis un livre ouvert, voilà. Et puis elle dit aussi, de toute façon, ce que je ne donne pas, on me le vole.
Voilà.
Donc, elle donne beaucoup.
Je disais au début de cette heure qu'il y a pour la première fois un doc sur vous, on vous voit des couvertures partout, vous racontez beaucoup plus de vous.
Je pense que je n'aurais pas accepté ce documentaire si j'avais pas fait ce film.
Oui.
C'est-à-dire que je me suis dit qu'après tout, on n'en mourrait pas que d'ouvrir un peu sa vie et sa maison. Et enfin, c'est pas dans ma maison, mais oui. Un peu qu'on se. Moi, je suis voyeuse. J'aime savoir. J'adore les interviews. J'adore savoir qui est avec qui. J'adore. Enfin voilà. Et je me dis, mais pourquoi j'en donnerais pas un peu moi aussi de mes coulisses, de voilà, parce que je suis très secrète. Je ne parle jamais de moi, j'aime pas ça, c'est pour ça que j'aime bien jouer des rôles, mais là j'ai accepté parce que Nicolas Perge il m'a envoyé un petit, il avait fait un petit dossier comme on dit, qui était bien, je l'ai apprécié et j'ai aimé sa façon de me présenter les choses et j'ai dit oui et j'ai même donné des images qui ont été filmées à mon insu par Valérie Allouche qui fait les lumières de mes spectacles donc j'ai aussi donné des bouts de spectacles alors qu'aucun spectacle
c'est vrai.
N'est filmé et n'est vendu et personne ne peut les voir donc enfin en dehors d'aller au théâtre au spectacle donc oui probablement je n'aurais pas fait ça si j'avais pas joué le rôle
Voilà, donc Valérie, que vous allez découvrir derrière Aline, derrière Céline.
C'est pour TMC, voilà.
Non, mais là, je parle de votre film.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, non, votre film Aline, qui sort mercredi prochain.
Oui, enfin, j'en ai marre de montrer les photos sur mon portable. Regarde, ça c'est sa mère, ça c'est... Donc là, on peut aller le voir.
On va se retrouver pour les sorties, mais avant, on va écouter une autre très grande voix, c'est Lana Del Rey. Put your rebel song, baby, giddy up. Baby wants to dance, baby gets away. Dreamy nights, talk to me with that whiskey breath. Tour me twice, I'll treat you like a holiday. Don't say you're over me, baby, it's already too late. Just do what you do best with me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina super high. Dance me all around the moon. Light me up like the 4th of July. Once, twice, three times the guy I ever thought I would be, so don't say you're over me when we both know that you lie. If you lie down, lie next to me. La 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 la. If you lie down, lie next to me. La 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 la. Lie down, lie next to me. Get your jacket on, be a gentleman. Get into your truck and pick me up at 8. And don't say you're over me when they all know that you. If you lay down, lie next to me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina super high. Dance me all around the moon. Like 6 times till I'm sick and I cry. Once, twice, 3 times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over. When they all know that you're lying. If you lie down, lie next to me. La 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 la. If you lie down, lie next to me. La 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 la. If you lie down, lie next to me. Laurent, on va parler des sorties. On va commencer par Albatros. Un petit peu sur Lana, Albatros, Xavier Beauvois. Petit lieutenant lui racontait la police, celui-ci raconte la gendarmerie, celle d'Étretat que Beauvois connaît bien, et cette proximité tellement bénéfique profite au film dans ses moindres détails. Tout est senti, ressenti dans cette photo finalement de la France, tellement juste à travers le quotidien de ces gendarmes qui affrontent drames familiaux, vols, suicides, agressions, mais aussi accompagnement d'une population. Je repense à cette scène toute simple de ces 3 gendarmes qui surprennent un jeune dormant dans sa voiture et repartent dans la nuit sans intervenir. Tout est dit, constat, misère sociale et sans discours.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a en fait juste 4 acteurs professionnels et dans le film, face à une kyrielle de non-professionnels, mais qui jouent leur propre rôle, évidemment.
C'est ça que Beauvois connaît dans la vraie vie.
Exactement. Ouais. Donc des gendarmes, bien sûr, vous le disiez, des paysans de ces pays d'Étretat, de Fécamp, du pays de Caux. Donc c'est... Il y a une dimension documentaire, mais qui n'est jamais pesante, qui n'est jamais lourde, qui est, comme vous le disiez très bien, qui passe par des moments de vérité. On sait la proximité de Beauvois avec le cinéma de Pialat. On retrouve effectivement ces choses. Il a une façon d'arriver à saisir l'humanité dans l'inhumanité, parce que quand même, il est question de gendarmerie, il est question de drame. de suicide, d'une balle perdue, etc. Au fond, on a l'impression que Beauvois se dit à la façon d'un Aragon, est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et ses réponses sont absolument lumineuses, je trouve, très très belles. Il y a vraiment de beaux moments. Je tiens à dire que le film s'accompagne, en librairie bien sûr, d'un livre qui s'appelle « Un monde hors champ », derrière la caméra de Xavier Beauvois. C'est de Dominique Thierry et Catel Muller pour les dessins. C'est édité par la Table Ronde et c'est incroyable parce que c'est une plongée dans l'univers du film. On aurait vraiment envie que chaque film fasse l'objet d'une telle plongée dans l'univers à travers des dessins et beaucoup, beaucoup de textes, évidemment.
Il n'y a pas qu'à Kikorismaki en Finlande, il y a un garçon qui s'appelle Juho Kosmanen, avec ce compartiment numéro 6, Grand Prix Festival de Cannes, attention, énorme coup de cœur. Laura, une jeune étudiante finlandaise en archéologie, va rejoindre depuis Moscou et en train Mourmansk, à 1500 km de là, pour aller découvrir les pétroglyphes des dessins dans la pierre datant du néolithique. Seule dans ce voyage, son amante russe ne l'a pas suivie, et face à elle, dans ce compartiment numéro 6, Lioa, un jeune russe grossier et alcoolisé, c'est le point de départ de ce voyage. Voyage, voyage, parce que la chanson de Désiré Lès nous accompagne. C'est un trajet insolite, émouvant, sans pathos, ou comment, et par la grâce de cette mise en scène, mais comment fait-il pour tourner dans ce train et l'éclairer? Deux identités tellement différentes vont se rejoindre, s'ouvrir à l'autre, et plus important, à eux-mêmes. Au-delà du romantisme, le tout incarné par deux acteurs extraordinaires. Elle, ça s'appelle Sedi Arla, et lui, il s'appelle Yuri Borisov, c'est le jeune acteur russe qui monte. En allant le revoir cette semaine, j'ai découvert un trésor caché. Cette réplique au tout début du film, lorsque Laura est encore à Moscou, cette réplique comme un indice pour la suite et que je vous livre, seuls des fragments de nous touchent un jour des fragments d'autrui. C'est un miracle ce film, il s'appelle Compartiment numéro 6, vous êtes d'accord
Laurent ? Mais comme quoi une fille rencontre un gars, oui. c'est le pitch, hein. Oui. Bah, ça peut donner des petits miracles.
Oui, miracle. Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, c'est un documentaire de Michel Leclerc, c'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui en a eu des centaines, Laurent, Yvonne et Roger Hagnauer, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin, c'est l'histoire de leur maison d'enfants de Sèvres, d'ailleurs qui a accueilli la mère du réalisateur Michel Leclerc.
Oui, c'est pour ça que son implication est extrêmement forte dans le documentaire, peut-être un peu trop forte au bout d'un moment d'ailleurs. Alors disons par exemple qu'il y a par ailleurs des très très belles séquences d'animation qu'on doit à Sébastien Lautenbach pour montrer des choses que l'histoire ne peut plus montrer, et ça c'est vraiment un bel ajout et un bel apport au film.
Après, ils ont sauvé des enfants juifs pendant la guerre.
Bien entendu, tout ouais. à fait, alors ça leur a été, après il y a eu un problème avec le Parti communiste, ouais. enfin bon, c'est une histoire très très compliquée, très 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 intéressante, dans laquelle effectivement Michel Leclerc s'investit, et avec progressivement, on le sent, et il l'explicite à la fin du film, avec un message qui est, au fond, il faut ben, peut-être, on peut oublier son identité, en l'occurrence son identité juive, on peut oublier l'histoire avec un grand H, et j'avoue que là, il y a peut-être un petit problème de concordance des temps, quand on est en train en France de se demander, ou certains se demandent tout d'un coup si Dreyfus était vraiment innocent, je ne suis pas certain que ça soit le bon moment pour diluer l'identité juive à travers quel que soit le récit, quelle que soit l'histoire. Et évidemment, Michel Leclerc n'est pas responsable de cette triste actualité, non. Mais néanmoins, ça jette un trouble.
Enfin, reste un beau portrait de cette famille, de ces deux personnes. Burning Casablanca, c'est un film d'Ismaël El Iraki. Rockstar déchu, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale où il fait la rencontre explosive de Raja qui est une prostituée à la voix d'or. Ils écument les nuits et dans la ville et tombent éperdument amoureux. Il y a dans ce film, mais toute l'énergie d'une première œuvre, une flamme constante, une vitalité dingue et au passage, la découverte d'une scène underground, celle du quartier Cuba à Casablanca, qui a rarement et même jamais été filmé. Alors oui, c'est brouillon, le film souffre de quelques longueurs, mais est sans cesse rattrapé par ces deux acteurs magnifiques, Laurent.
Oui, c'est un film absolument fiévreux, ouais. hein, qui mêle allègrement polar, western, fable, conte, personnages romantiques, néanmoins, dans cet environnement que vous venez de décrire. Et puis je crois qu'effectivement, il y a une sorte d'autres personnages principaux qui est Casablanca, comme on l'a peut-être jamais vu filmé au cinéma, de nuit notamment, mais pas seulement. Et là, effectivement, c'est une espèce de ville absolument tentaculaire qui est tout à fait fascinante.
Avec Alcansa Batma et lui Ahmed Hamoud. Careless Crime, c'est une comédie iranienne, comédie dramatique, non, comédie dramatique.
Oui, comédie dramatique.
À partir d'un événement qui s'est réellement passé en Iran, c'est l'incendie d'un cinéma.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est un drôle de film, et il faut écrire film au pluriel parce qu'il y a trois films en un. Celui que nous regardons et qui retrace effectivement le drame de du cinéma Rex en 1978, où il y a eu plus de 400 victimes dans l'incendie, hein. Deuxième film, c'est celui que le cinéma du film projette et dans lequel les héros vivent un drame en noir et blanc. Et puis, il y a un film sur les mesures anti-incendie qui ont été prises. Donc, ce qui est incroyable, c'est que cet ensemble très disparate, très fouillis, on s'y perd un peu parfois. Il a un discours commun, une vertèbre profonde, c'est tout simplement la défense de la culture là où elle est toujours menacée, et on voit bien qu'en Iran, elle l'est. Donc on est emporté par les trois films à la fois, c'est absolument labyrinthique et revigorant.
On va aller très vite parce que on n'a pas beaucoup de temps. Jacques Doyon en quatre films, Les Doigts dans la tête, La Drôlesse, La Femme qui pleure, La Vie de famille. Un festival, Laurent?
Un festival, c'est Ciné-Banlieue du 18 novembre, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen et quelques cinémas parisiens. C'est toujours parrainé par Reda Kateb, qui montrera d'ailleurs le nouveau film dans lequel il joue, qui est très beau, qui s'appelle Les Promesses. Des films en compétition, 9 longs métrages, des avant-premières, des cours pour dire et raconter la banlieue actuelle.
Des cadeaux qui ne sont pas la nourriture, elle va nous en vouloir.
Hélas, désolé, on peut pas croquer dedans, et pourtant il est assez épais. Le Pandora pour vous, Valérie Le Mercier, dans un sublime coffret de chez Carlotta. DVD, livré de 160 pages de Patrick Brion, pour ce chef-d'œuvre absolu du cinéma américain, évidemment. Je le répète, c'est chez Carlotta, on est très heureux de vous l'offrir et de le conseiller vivement à nos auditeurs. Pour vous, Victoria Sio, des Indes galantes, c'est un documentaire.
C'est très très drôle. Ma meilleure amie et ma chorégraphe dansent dedans. Je l'ai pas vu. Très bien.
Merci, cadeau bienvenu.
Très belle mise en scène de Clément Cogitor. C'est chez Pyramide, et vraiment c'est une plongée incroyable dans cette arrivée sur la scène de l'opéra du Krump, notamment, et ça c'est tout à fait saisissant. Super. Et puis pour vous, Olivier Cachin, tout à l'heure on parlait d'Elvis Presley. Je sais pas si vous avez eu cet ouvrage qui vient de paraître. Ah ben tant mieux. C'est un ouvrage de Yann Jouvert sur Elvis Presley et le cinéma, le mal américain parfait. Selon lui, c'est chez Rouge Profond, et c'est une très très belle étude de ce chanteur qui a aussi tourné, il faut le rappeler quand même, sous la direction par exemple de Don Siegel ou de Michael Curtis, donc c'est pas rien, et qui a généré effectivement toute une mythologie.
Et qui chantait ses dialogues quand il ne savait pas jouer, ça c'était magnifique.
et dont Love Me Tender est dans Aline.
Oui, absolument. Mais c'est vrai, Aline, pas mal, qui sort mercredi prochain. Merci Valérie Le Mercier, merci Victoria Sio,
merci
Olivier Cachin, au revoir.